j'ai que des amis ici. Il n'y a pas de femmes ici parce que c'est une boutique de mecs. Et ils parlent d'amour tout le temps. C'est incroyable, hein. Moi ça m'étonne. En fait, c'est des cœurs d'artichaut. Parfois, je viens sans raison. Sans raison, parce que je sais qu'il y a un endroit où je peux m'asseoir un quart d'heure, une heure, cinq minutes, et je trouverai toujours quelqu'un.
Le grand atelier.
Avec qui échanger quelque chose, quoi.
Sur France Inter.
Et oui, il aime échanger. C'est un homme de la parole, mais aussi un homme qui manie les mots. Il écrit des polars, des romans, des essais. Il connaît les âmes comme personne, particulièrement celles des étrangers qui ont fui leur pays et se retrouvent en France, isolés, mal compris. Depuis plus de 40 ans, le psychologue Toby Nathan pratique l'ethnopsychiatrie. Il écoute, tâche de comprendre et d'aider l'étranger, en prenant en compte son environnement, sa culture, sa religion et sa langue. Au fond, il se met à sa place, lui, le petit garçon juif expulsé d'Égypte en 1957, découvrant la France à 10 ans, à Gennevilliers. Son sujet principal, ce sont les migrants, mais aussi les jeunes tentés par la radicalisation, objet de son dernier livre, Les âmes errantes. Il est aussi spécialiste des rêves. Outre ses livres, il y a ses chroniques sur les objets du quotidien dans une revue de philosophie. Et si vous souhaitez l'approcher, eh bien rendez-vous dans un atelier d'écriture parisien, dans le 5e arrondissement. Là-bas, il conseille des apprentis écrivains. Bref, il est séduisant, ce savant accessible, ce grand espiègle aux yeux rieurs, cet honnête homme qui s'intéresse à l'autre. Bonjour Toby Nathan.
Bonjour Vincent Josse.
Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. On va passer deux heures avec vous Toby Nathan. Nous allons vous suivre dans plusieurs de vos activités et on va recevoir vos invités. C'est quelque chose qui vous convient ?
Très très bien, ce qui me convient très bien.
À vous lire, à vous écouter, expliquer votre métier, à vous observer au milieu des autres. J'ai vu, pendant les reportages qu'on a fait ensemble, j'ai vu en vous un homme sociable, c'est-à-dire, me semble-t-il, très heureux de vivre avec les autres.
Ouais, c'est vrai, j'aime bien être en compagnie, pas nécessairement pour quelque chose. C'est-à-dire être là où il y a du monde, où il y a de la parole, mais pas forcément de la parole, où il y a du sentiment, de l'affect qui est présent pour dire un mot ou pas, mais pour être ensemble. Oui, j'aime beaucoup être à plusieurs.
De l'affect et de l'amour. L'amour revient souvent dans votre bouche.
Mais pas beaucoup, hein. C'est-à-dire, j'aime pas les foules, j'aime pas les grands groupes. Je suis assez d'accord avec Brassens qui disait que quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. Mais quatre, c'est super bien, quoi.
Comment vous expliquez que l'autre, que l'étranger, au sens large, vous attire ?
Oh ben alors là, je sais pas. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse ne pas être attiré par l'étranger. C'est-à-dire, on est attiré par quelque chose qui vous met une question dans la tête, qui dit mais comment ça se peut que quelqu'un ne soit pas comme moi ? Cette question-là devrait alimenter tout le temps, ma vie quotidienne, quoi. Déjà, quand je sors de chez moi, je me dis, est-ce que je rencontre un semblable ou quelqu'un qui est loin de moi, plus loin de moi, encore plus loin de moi. Plus il est loin de moi, plus je suis content. Je me dis qu'un jour, si les Martiens débarquaient sur Terre, ils auraient besoin d'un ethnopsy, de quelqu'un spécialisé dans l'étrangeté et qui dirait « Mais comment est-ce qu'on parle avec des gens avec qui on ne partage rien ? On ne sait même pas quelle langue ils parlent. » Et bien ça m'intéresse beaucoup.
Qu'est-ce que vous demanderiez, Toby Nathan, à un Martien ?
Comment il se reproduit ? C'est la première chose que je lui demanderais. Parce qu'un vivant, ça se reproduit. Et la question qui anime n'importe quel être humain, c'est comment on reproduit, c'est-à-dire comment même, je ne parle pas seulement de sexualité, hein, comment on reproduit ce qu'on a fait de bien et comment on fait pour le faire perdurer, comment on reproduit ça. C'est ça que je lui demanderais. Et à partir de sa façon de reproduire, c'est ça qu'on appelle la culture. C'est la possibilité de reproduire, en fait.
Je sens que vous attendez ça dans votre vie. Le prochain événement qui vous rendrait heureux, c'est de croiser un Martien.
Oui, ça me plairait beaucoup. Oui.
Alors, à défaut de connaître les Martiens, Toby Nathan, vous connaissez les migrants depuis plus de 40 ans. Vous les recevez et vous avez ouvert, dans les années 90, un centre pour accueillir, pour écouter, pour guider des émigrés, le centre Georges Devreux à Paris. On s'y rendra tout à l'heure. Mais est-ce que la culture que vous connaissez le plus, c'est la culture africaine ?
Ouais, j'ai un tropisme africain. Je sais pas très bien pourquoi. Bon, je suis un peu africain, mais enfin, c'est quand même très au nord de l'Afrique.
Né en Égypte.
Oui, je suis né en Égypte, bon, mais c'est pas tout à fait l'Afrique, quoi. Mmh. Mais j'ai découvert l'Afrique d'abord en France, parce que j'ai eu beaucoup de patients africains. Et puis après, ils m'ont tellement posé de questions, comme les questions que je vous évoquais tout à l'heure, que je suis allé les voir chez eux, puis j'ai vécu là-bas. J'ai vécu 2 ans au Burundi, j'ai vécu 2 ans en Guinée-Conakry, et puis je suis allé beaucoup dans toute l'Afrique francophone. Je pense que je n'ai raté aucun pays de l'Afrique francophone. J'ai une curiosité, une appétence comme ça pour l'Afrique. Et chaque fois, je suis conquis par ces peuples d'anarchistes fondamentaux, quoi. C'est leur anarchie fondamentale qui m'attire et qui correspond à quelque chose au fond de moi, je crois.
Toby Nathan, vous aimez aussi la musique africaine et particulièrement la musique malienne. Alors on a eu envie de vous faire plaisir et de se faire plaisir. On a un musicien malien qui est avec nous et pas des moindres. Son dernier disque Koya est magnifique. Il s'appelle Abou Diara. Il est en train de se placer avec 2 de ses musiciens. On va les écouter. Abou Diara, c'est à vous.
Mi manake la jagula ne nana unyana je Niya me koko te ko sala korode na sunguru ya bade Niya me koko te ko sala fandanya de kamare nya bali diro Iya jama Ya jama fantani falala dumate be Ai joro la bango de la abou be joro ila batna ikatri moso do ye wolo denti kiye ale ma miri wolo dentani na ikatri Jeba doye na voloti kiye ale ma miri fanta fala lula Dobe wolo fanta nya de la ale bella ba fenti ya de la diro Olu mala wili bana la diroya. Anu nye bara la, ariti silu e bara la diroya.
Abou Diarra, dans le grand atelier de Toby Nathan sur France Inter, venez nous rejoindre, venez avec votre instrument aussi, ça nous intéresse. Toby Nathan, vous connaissiez ce musicien ?
Un peu, mais je le connaissais uniquement, pas, je ne l'ai jamais rencontré, je veux dire. Moi, je le trouve exceptionnel, parce qu'il allie la connaissance très approfondie des mélodies traditionnelles, et surtout l'instrument, c'est un goni, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est une sorte de petite cora, mais qui est particulière. Et je pense que il a dû apprendre ça tout petit. Enfin, on a dû l'initier à ça. C'est des choses. C'est pas n'importe quoi d'être initié à ce genre de choses.
Bienvenue à Abou Diarra. Racontez-nous un petit peu votre lien avec cet instrument. C'est votre meilleur ami depuis longtemps.
Oui. J'ai commencé à fabriquer cet instrument et joue depuis l'âge de 13 ans, 14 ans. Mais quand mon père il est décédé, je suis parti en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai appris le ngoni. Ngoni, ça veut dire guitare. Kamelungoni, ça veut dire guitare pour le jeune. Il est plus vieux que Koura, mais c'est la même famille. Le ngoni, il est plus vieux que Koura. Au début du ngoni, c'est pour le chasseur, en fait.
Oui, c'est l'instrument des chasseurs.
Voilà, hein. C'est pour. Et à l'époque, c'est pour encourager le chasseur, pour raconter ce que ton grand-père, là, quel arrière-grand-père, ce qu'il a fait, il était comment, pour raconter l'histoire. Ngoni, au début du ngoni, c'est comme ça.
Vous avez compris ?
Oui.
C'est-à-dire, il dit que c'est des gens qui, on les invite, par exemple, à un mariage, un baptême, etc. Oui. Ils sont capables de chanter votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, etc.
Justement. Bon,
c'est ça ?
Justement. Et parce que tout le monde sait qu'avant, on n'avait pas le carte d'identité.
C'est ça.
Notre carte d'identité, c'était nom de père, nom de famille.
C'est ça.
Au Mali, quand on te demande, tu viens d'où ? Tu donnes ton nom de famille, on sait direct qui tu es, d'où tu viens. C'était comme ça avant. Mais actuellement, c'est le carte d'identité maintenant, dans le papier. Quand on dit lui il est Diarra, ou bien lui il est Diallo, ou bien lui il est Kouita, non, on sait directement d'où il vient.
Il est capable de raconter toute votre généalogie. Et quand on raconte votre généalogie, on sait qui vous êtes. Et c'est vrai, ce qu'il dit a un côté humoristique, en fait. Hein. Il dit, regarde sur une carte d'identité, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ton grand-père, il n'y a personne.
Et vous, vous travaillez quand vous recevez des migrants, et encore une fois, ça fait au moins 40 ans que vous parlez avec eux. Justement, vous faites en sorte qu'il y ait du lien autour d'eux et qu'ils ne soient pas seuls, Toby Nathan.
Voilà, parfois, j'ai travaillé avec des griots aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un griot qui était du Burkina aussi, et qui parfois venait à ma consultation, et il ne chantait pas, hein. Mais il posait les questions, et il m'a appris à poser les questions. C'est-à-dire, ton père, ton grand-père, ton oncle maternel, c'est très important,
oui,
les oncles maternels.
Oui, oui.
Et donc, on met tous ces gens-là dans la consultation, et tous ces gens-là font partie de la consultation, même s'ils sont loin, même s'ils sont morts, ils font partie de la consultation.
C'est vrai. Dans la vie, on doit savoir qui tu es, d'où tu viens, c'est important. Une fois, moi, j'étais parti en Géorgie. Il y a un monsieur qui est venu à côté de moi, c'est une blague. Il dit, ben, Abou, moi, je veux savoir qui je suis, d'où je viens. Je dis, ben, donne-moi ton nom de famille. Je vais te dire exactement ton village. Il ne connaît plus son nom de famille, parce que son arrière-grand-père, le grand-père, ils sont nés là-bas, grandis là-bas. Ils ne sont jamais montrés aux enfants d'où il vient. Je dis, ben, dommage. Alors c'est important que tout le monde doit savoir qui tu es.
Vous avez raison, parce que c'est fondamental, notamment chez Toby Nathan, quand vous écrivez sur les jeunes qui sont tentés par la radicalisation aujourd'hui, c'est le cas des âmes errantes, votre dernier livre, vous dites c'est parce qu'ils ne savent plus d'où ils viennent.
C'est vrai.
Sont perdus, ils sont paumés dans leurs racines, dans leur identité.
Bon, moi, je raisonne pas comme ça, je me dis...
Je caricature, je résume.
Un peu, mais c'est-à-dire que quand je veux les rattraper, c'est avec leurs ancêtres que je les rattrape. Je dis pas qu'ils ont perdu leurs ancêtres. Je dis que quand il faut les rattraper, là, je vais chercher leurs ancêtres et je fais exactement ce que dit Abou. Hein. C'est-à-dire, je dis, bah, comment tu t'appelles ? Comment s'appelait ton père ? Comment s'appelait ton grand-père ? Les ancêtres, c'est intéressant. Et au début, le premier ancêtre, c'est pas forcément un être humain, hein, le premier ancêtre. Parfois, c'est un crocodile. Lui, c'est un lion, hein, son ancêtre.
C'est vrai,
c'est vrai. Mon nom, c'est Diarra. Diarra, ça veut dire lion.
Ouais. Il devrait, Abou, vous accompagner dans vos consultations. Vous apprendrait plein de choses encore, vous croyez?
Je serais très content.
Vous parlez combien de langues, Toby Nathan?
Mais je parle pas beaucoup de langues, peut-être 4 ou 5, mais...
Une bonne moyenne.
Mais c'est pas beaucoup, hein. Je reçois parfois des patients dont je connais pas du tout la langue. Là, j'ai besoin de quelqu'un, hein, forcément.
Et vous êtes entouré, bien sûr, de personnes qui peuvent vous aider à traduire au centre Georges de Vreux. On ira tout à l'heure, on se rendra là-bas. On rencontrera un peu l'équipe qui travaille avec vous. Mais d'abord, pour mieux vous connaître, Toby Nathan, on va se rendre dans une friperie à Paris. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous m'avez dit, venez, si vous voulez me connaître, il faut d'abord connaître mes copains. Et il y a une bonne partie de mes copains qui se trouvent là-bas, dans une friperie qui s'appelle chez Simons ou chez Simons, vous dites comme vous voulez. Les voilà, les copains de Toby Nathan.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Je vous présente le patron. Il est où?
Simon.
Bonjour,
Simon.
Enchanté.
Simon.
Où est-ce qu'on est ici alors?
Alors, on est 12 boulevard Arago, chez Simons, parce que le patron s'appelle Simon, et comme il fait l'anglish, donc il met une apostrophe, il fait genre que je suis anglish, Simon, et il vend du vintage.
Oui, on essaie de vendre des vêtements de qualité.
Des chaussures, des vestes, des sacs.
Voilà, j'habille l'homme moderne.
Avec des habits d'autrefois.
Non, ouais. On va dire plutôt des beaux habits qui ont une histoire.
Et voilà. Mais comment vous avez découvert cette adresse?
Parce que c'est dans mon quartier. J'ai que des amis ici. Alors, le doyen. Alors, lui, il n'avait pas compris que c'était la radio et alors il s'est habillé pour la télé. Donc,
non, pas du tout.
Vous êtes très élégant avec votre veste crème, la cravate mauve.
Il est très élégant.
C'est gentil à vous de le reconnaître.
Alors, lui, c'est la tendresse parce que chaque fois, il me parle de gens qu'il aime, quoi. Et il parle que d'histoires de tendresse et ça, c'est quelqu'un, quoi. Donc, quand t'es triste, tu vas voir la tendresse.
Ou tu plonges un peu plus.
Et tu plonges encore plus, voilà.
Mais vous venez pas simplement pour les habits?
Non, on vient parce que c'est l'amitié ici. Vous voyez bien l'ambiance qu'il y a? C'est l'amitié, les gens, on se connaît. Après, au bout d'un moment, on fait des amitiés, on discute. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont dans le quartier, on se rencontre dehors un peu des fois. Parce que là, c'est un peu calme. Mais pendant la période politique qu'il y a eu de Macron, il fallait venir, là, c'était très intéressant, là.
Qu'est-ce qu'il disait, Toby Nathan, à l'époque?
Je dirais rien, il faut lui demander. Et t'as vu ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé ce que t'as vu penser à l'époque politique. Quand c'était Macron, l'époque Macron qu'il y avait ici, là, tout autour, là.
Il y avait toutes les opinions. Il y avait toutes les opinions.
Sinon,
il y a plein de gens bien, de gens intéressants dans ce quartier.
Alors, Toby Nathan, si je vous dis Toby Nathan, qu'est-ce que vous me dites?
Je crois que la meilleure définition de Toby, sans lui jeter de fleurs, c'est celle de ma femme Sandrine, c'est vraiment la gentillesse. C'est vrai. À chaque fois, Sandrine, elle me dit ça. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce monsieur? C'est vrai, quoi. La gentillesse.
Quand il est là, on parle de quoi?
On parle de tout et de rien.
On refait le monde de temps en temps, quoi. Voilà, c'est tout.
Ça me rappelle... Moi, je suis né au Caire. Et au Caire, mon père faisait... Moi, j'étais jeune, hein. Je suis parti, j'avais 9 ans. Et je me souviens que mon père, il travaillait, mais un peu. Puis le reste du temps, il allait au café. Et qu'est-ce qu'il allait faire au café? Ben, rien. Juste parce que l'assise est agréable. C'est comme ça qu'on dit en arabe. L'ardakwayessa, ça veut dire l'assise. Kwayessa, elle est bonne. Non, est agréable. C'est-à-dire qu'on prend un moment de bon temps, mais pour rien, on n'a rien à faire de particulier.
On a... Mais non, quand on va au café...
Simon,
pardon, excusez-moi. Quand on va au café, on parle même pas avec les gens, on prend un verre, une bière, et on parle pas aux gens. Moi, quand j'étais petit, garçon, enfin, j'allais avec mon père au café, et il y avait quelque chose qu'il n'y a plus du tout dans les cafés, c'était le flipper. Et le flipper, c'était un objet aussi de... Pour rien.
Sociabilité.
Oui, parce qu'on était 4. Enfin, on pouvait jouer à 4. Alors, on se connaissait pas. Les gens mettaient leurs pièces, et puis chacun son tour.
Plus les spectateurs.
Plus les spectateurs. Ah ouais, alors t'as le... Ouais. Et en fait, maintenant, dans le café, on va, mais il y a de moins en moins... Tous les cafés se ressemblent et c'est...
Non, je ne suis pas d'accord avec Simon.
Toby Nathan.
Je suis pas d'accord avec Simon parce que le flipper, il y a quelque chose de moins que chez Simon quand même. Hein. Faut pas comparer Simon à chez le au flipper quand même. Non. Parce qu'il y a un côté absurde au flipper. Tu lances la boule, ouais. Elle finira par tomber, quoi. Ouais. Alors qu'ici, ça ne tombe pas forcément, la boule. Donc, Simon n'est pas un flipper.
On peut le dire, ouais.
Mais vous travaillez quand même, Simon, puisque vous discutez toute la journée, comment vous faites avec vos clients?
Moi, j'ai toujours pensé que la vie personnelle et professionnelle devait être intimement liée. Là, par exemple, on fait de la radio, mais on travaille aussi. Vous voyez, il y a quand même des gens là qui attendent pour payer. Des gens qui vont venir. Alors, plus on fait attendre les gens, plus les gens, ils aiment, quoi.
Mais vous avez des personnages de roman, là.
Mais justement, je suis en train d'écrire un roman, là, en ce moment. Il est centré sur Simon.
Alors, j'ai une peine à croire.
Alors, pour l'occasion, j'ai apporté quelques pages. Si vous voulez, je vous les lis.
Avec plaisir.
Bon.
Alors, comme pour que tout le monde vous écoute.
Alors, bon, je lis. Mais t'écoutes aussi, ouais, Simon. Non, mais lui, il va se barrer et il peut pas rester deux minutes sur le même truc. Donc, dans le roman, il s'appelle Samuel, en fait. Hein. J'ai changé le nom.
Simon s'appelle Samuel.
Ouais, donc, alors voilà. En fin d'après-midi, je me rends chez Samuel, boulevard Arago. Pas tous les jours, mais très souvent. Plusieurs fois par semaine, même. Sa boutique s'appelle Samuel, pour faire British, quoi. Une belle enseigne à l'ancienne et cette inscription qui m'a tout de suite attiré, chaussures, vêtements, objets vintage. Samuel est fripier. Je ne sais pas si c'était le cas de son père, mais Samuel, il est vraiment doué pour ça. Dès la porte franchie, il vous regarde par-dessous l'air goguenard et vous annonce « J'ai rien pour vous aujourd'hui, revenez demain.
» Demain.
Vous voulez que je continue?
Oui, encore un petit paragraphe.
Bah ouais.
Ah bah oui.
Venez échanger des paroles sans lendemain avec des personnages dont vous ignorez l'existence, car Samuel, c'est pas une simple boutique. C'est là que se retrouvent des gens. Pas des personnes identifiées avec des noms, leur situation de famille, leur fonction. Pas des individus comme lorsqu'on est qualifié par la police. Pas non plus des sujets à qui l'on attribue des désirs. Pas des citoyens à qui on suppose des opinions. Non, des gens, c'est-à-dire ceux dont on ne sait rien, ceux avec qui on parle mais de rien, ceux avec qui on passe du temps comme ça, pour rien, la socialité dans son expression la plus pure. Fréquenter la boutique Samuels, c'est une sorte d'apprentissage philosophique. On y étudie l'art de l'être là.
Et la politique.
Et la politique.
Et la politique.
On parle de...
Alors voilà, ouais. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît?
Oui, ça me plaît.
Voilà. Monsieur Simon, moi, il m'est venu des idées, quoi. Ça s'appelle l'atelier. Votre
grand atelier,
émission,
oui.
Votre émission, moi c'est un peu un laboratoire pour moi. C'est un laboratoire parce que là j'arrive, je me tiens là, et puis en sortant, ou parfois même quand je suis là, il me vient des idées. Et une idée, moi, qui m'a frappé, moi, chez Simon, c'est que le vêtement, c'est la nature de l'homme, en fait. Les hommes à poil, il n'y en a pas. C'est-à-dire, même quand ils sont à poil, ils sont peints, il y a des tas de machins qui sont dessus, quoi. Et c'est la déco qui fait l'homme. Donc, ici, c'est ce qu'il m'a appris, lui. Et au fond, je viens apprendre, cultiver cette idée ici.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Voilà comment ça se passe dans la friperie Simons, boulevard Arago. Ça donne envie un peu d'être votre ami, d'être votre copain, Toby Nathan.
C'est vrai?
Oui.
Bon, bah alors, c'est marché conclu. Il suffit de venir, de s'asseoir à côté de moi, de me dire trois mots gentils, je suis votre ami, ça y est. Hein.
On vous a facilement.
Ah ouais, très facilement.
On va poursuivre votre grand atelier, Toby Nathan, en musique avec Mélissa Laveau. Je ne sais pas si vous la connaissez. Chanteuse, musicienne, compositrice canadienne. Sa musique est teintée d'influence haïtienne, pays dont ses parents sont originaires, ainsi que du blues et du folk. Elle compose, elle chante en trois langues, l'anglais, le français, le créole haïtien. Elle est faite pour vous, Mélissa Laveau.
Yeah.
Mélissa Lavaux, est-ce que vous parlez, Toby Nathan, le créole haïtien?
Pas du tout. Enfin, je comprends des mots aussi. J'ai l'impression qu'elle parle de l'enfant noir, mais je suis pas sûr. Hein, mais c'est le créole haïtien est très spécial. Hein. Le créole antillais, le créole réunionnais, qui sont très différents l'un de l'autre. On a une compréhension plus intuitive. Le créole haïtien est plus compliqué à pénétrer parce qu'il y a des mots qui viennent de partout.
Il y a un jeune homme qui vient de s'asseoir en face de nous. Il s'appelle Alexandre Lacroix. Vous pouvez nous le présenter?
Alexandre Lacroix, c'est le patron de Philosophie Magazine. Mmh. C'est aussi un romancier formidable. Moi, je l'ai connu pas par ses romans, je l'ai connu par ses essais. Et en particulier, il a écrit un essai qui m'avait pris la tête, c'était sur le baiser.
Et vous vous êtes dit, ce garçon est forcément intéressant.
Ouais, je l'ai découvert progressivement, puis on a commencé à bosser ensemble. Non, pas bosser ensemble, il m'a recruté comme chroniqueur dans la revue, et je lui suis très reconnaissant.
On va parler de ce que vous faites avec Alexandre Lacroix, mais je voudrais vous interroger sur ce reportage que vous venez d'entendre. On avait l'impression, en étant dans cette friperie, Alexandre Lacroix, qu'on était au café. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Et il s'est dit des choses toutes simples, mais des choses très belles, je trouve. Par exemple, c'était une sorte de vertu, des échanges de paroles sans lendemain, comme le disait Toby Nathan.
Oui, c'était très beau. Et ce qui était très beau aussi dans le texte, c'était l'éloge des gens. Toutes les catégories qui ont été disqualifiées dans le texte de Toby sont les catégories dont on fait l'éloge en philosophie. L'individu, le sujet, le citoyen. Et on fait jamais l'éloge des gens. Et donc c'est un pied de nez, en fait, à la tradition philosophique. Et c'est
vous pourriez écrire là-dessus, justement?
En fait, quand vous suivez un cursus en philosophie, vous êtes un peu pris en otage par un récit qui est un récit mythique, qui a été mis au point par Hegel, qui relie de manière magique la philosophie allemande à la philosophie grecque. Les Allemands ont voulu nous faire croire qu'en fait, il n'y avait que deux pays où l'on avait réellement pensé par concept, la Grèce et l'Allemagne. Et ils se sont inventés même une sorte de filiation. Ils ont beaucoup fantasmé sur une proximité avec le peuple grec. Donc tout ça pour dire que ce qu'apporte Toby Nathan dans Philosophie Magazine, justement, c'est le contre-récit. C'est-à-dire la possibilité de faire rentrer les mots d'ailleurs de l'espièglerie. Et c'est vrai que systématiquement dans tous les textes que Toby a publiés depuis longtemps, hein, maintenant la première collaboration c'est en 2012. Hein. Donc depuis 5 ans, donc Toby apporte cette pensée d'ailleurs qui nous manque parce que nous, membres de l'équipe de Philosophie Magazine, et là on fait notre mea culpa, on n'a pas la formation pour faire rentrer ces concepts d'ailleurs. Et donc on a besoin d'intercesseurs, de médiateurs, de gens qui nous expliquent et qui déploient, déplient ces notions.
Toby Nathan, l'homme qui ouvre
un peu.
Alors, on vient vous chercher pour ça.
Qui ouvre un peu. Je me souviens que dans mes voyages en Afrique, j'étais très étonné parce que je suis prof de fac, moi. Donc j'ai beaucoup travaillé dans les universités, puis j'ai visité les universités africaines et ça m'a impressionné qu'ils ils enseignent la philosophie en Afrique. Ils enseignent Socrate, Platon, Hegel. Je dis, mais vous avez une philosophie sur place. Et ils disent, ouais, mais il n'y a personne qui la connaît de manière à la raconter à l'université.
C'est terrible, non?
Moi, je trouve ça terrible.
Dans la revue Philosophie Magazine, Toby Nathan, vous écrivez par exemple sur le kebab. C'est le cas ce mois-ci dans la revue de novembre.
Ouais.
Ça vous inspire quoi, le kebab? On en mange beaucoup hein, en France, on en consomme beaucoup.
Beaucoup. On est le deuxième au monde. Et les premiers, c'est les Allemands, justement. Ça tient peut-être à la philosophie, je sais pas. Bon, c'est un défi aussi d'Alexandre. C'est lui qui m'a dit, tu sais dire quelque chose sur le kebab? Et donc, oui. c'est un défi. Hein. Il me lance des défis comme ça, Alexandre.
Parce que je suis tombé sur Internet, sur des chroniques gastronomiques ironiques de kebabs, de gens qui se conseillent entre eux des kebabs, mais avec des mots qui seraient adaptés normalement pour les restaurants étoilés. Et j'en ai envoyé une à Toby. Alors la chronique de Toby, son sujet, elle s'appelle ethnomythologie. Et donc on lui demande de faire un peu comme les mythologies de Barthes, c'est-à-dire de repérer des choses qui sont dans la mode, dans l'air du temps, présentes dans la société, mais de les décoder avec des outils qui viennent de l'ethnologie, de l'ethnographie.
Voilà, alors Barthes parlait entre autres de la déesse et Toby Nathan du kebab.
Bah le kebab en fait, c'est presque, il a fait de l'humour parce que comme ce sont des viandes assemblées, ce sont des viandes tissées ensemble et assemblées. Ce qu'il explique, c'est que le kebab fait tenir ensemble nos viandes, la viande des gens, c'est-à-dire en fait, il est transclasse, il est transethnique, fait tenir toute la société ensemble. L'enfant du bourgeois du 16e arrondissement mange de temps en temps un kebab, de même qu'on va trouver du kebab dans les villages les plus reculés de la campagne française, d'Auvergne, etc.
C'est un mot arabe à l'origine, tiré de la racine sémitique keba, qui évoque le mouvement des deux mains pour rassembler et mettre en plot.
Ouais.
Je trouve ça éminemment poétique.
Mais c'est vrai, non, c'est ça, kuba, c'est un mot de mon enfance. Hein. On faisait des kobe, bah, Kabeba, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire une pelote de laine, par exemple. Hein. Et la kabeba, c'est faire une boulette de viande qui a la forme d'une pelote de laine. Et c'est donc, il y a les deux assemblages.
L'étymologie, c'est quelque chose que vous utilisez énormément dans votre travail?
Ouais, beaucoup. Parce que tous les mots ont des histoires qui sont plus ou moins vraies. Hein.
Petit garçon, à Gennevilliers, on vous traite de Youpin. Ouais. Et dans votre dernier livre, Les âmes errantes, vous racontez l'origine de Youpin. Et puis vous avez des petits camarades arabes qu'on traite de crouille et vous racontez d'où vient ce mot. Et là aussi, c'est absolument passionnant.
Là, on connaît l'origine. Hein. C'est un mot arabe. Hein. Et Akhouya. Akhouya, ça veut dire mon frère. Et les Arabes entre eux, à cette époque-là, s'appelaient mon frère. Akhouya, Akhouya. Et donc, en fait, on leur vole un mot. Le raciste vole le mot. Et il dit, regarde, je te connais si bien que je connais même les mots par lesquels tu te désignes. Ça, c'est typiquement une phrase de raciste.
Finalement, on le dépossède de quelque chose.
On lui dit, tu peux même pas te cacher dans ta langue. C'est ça le but de l'insulte. Parce que Youpin, c'est Youd. Youd, ça veut dire juif, en fait. Et donc, en fait, quand on me traite de Youpin, on me traite de juif. C'est vrai, je suis juif. Et ben, c'est pas la peine d'en faire une insulte.
Vous avez des discussions passionnantes avec Tommy Nathan. Est-ce que vous avez le temps, Alexandre Lacroix, parce que vous êtes patron d'une revue et vous écrivez des romans et des essais. Vous prenez ce temps-là?
Oui, il nous arrive d'avoir des discussions. On a... C'est assez ludique aussi, c'est-à-dire que Toby est quelqu'un de très ponctuel, il rend toujours ses chroniques à l'heure. En fait, c'est pas si facile de faire des mythologies à la Barthes. Ça a l'air simple de trouver la déesse aujourd'hui, mais il faut regarder autour de soi, c'est complexe. Et on s'est amusé, par exemple, à essayer de trouver quelque chose d'intéressant à dire sur le hand spinner. Vous savez, cette petite roue que les enfants font tourner dans leurs mains.
Tellement à la mode.
Voilà, on s'amuse.
Il est même capable d'écrire, Toby Nathan, sur le gyro-roue. Vous savez, cette petite roue qui est très à la mode en ce moment dans les villes. Ouais. Ça vous inspire. Le téléphone portable aussi, les oreillettes quand les gens parlent tout seuls, ça vous amuse beaucoup?
Non, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, quelqu'un qui parlait tout seul dans la rue, c'est un fou, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, on cherche où est l'écouteur du téléphone, quoi. Et donc, j'en ai conclu que quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, c'est qu'on voit pas l'iPhone, en fait. Cette histoire d'entendre des voix, vous savez que
ça vous parle.
Ah ouais, c'est l'avenir de la psychiatrie. Non, mais je vous assure, jusqu'à il y a pas très longtemps, quand je faisais encore de la psychiatrie dans j'étais à l'hôpital, j'ai travaillé à l'hôpital.
Je précise que vous n'êtes pas psychiatre, mais psychologue. Hein.
Ouais, mais à l'hôpital, on disait. Enfin, c'était une évidence. Quelqu'un qui entend des voix, c'est qu'il est schizophrène. Pourquoi je dis que c'est l'avenir de la psychiatrie? C'est que ça fait quelque temps déjà, ça fait une dizaine d'années peut-être, qu'il s'est constitué un groupe qui s'appelle les entendeurs de voix, et constitué de gens qui ont été qualifiés de schizophrènes par des psychiatres, et qui ont commencé à dire, ben non, nous on entend des voix, le problème c'est pas les voix, c'est que parfois, elles nous angoissent, les voix. Donc le problème c'est pas les voix, c'est l'angoisse. On veut bien que l'angoisse soit apaisée, mais on n'a pas envie qu'on nous débarrasse de nos voix, parce qu'elles nous disent des choses qui nous intéressent. Et donc ils se mettent en groupe comme ça, et c'est extraordinaire l'efficacité de ces groupes, c'est-à-dire que ces gens guérissent sans médicaments, rien que parce qu'ils sont en groupe et qu'ils portent une attention à leur voix. C'est pour ça que je pense que c'est l'avenir de la psychiatrie. C'est justement de prêter attention aux voix des gens dont on disait qu'ils étaient schizophrènes.
Alexandre Lacroix, est-ce que Toby Nathan, votre ami et votre pigiste...
Oui, c'est mon chef.
Ah, c'est votre chef. Je vois d'ailleurs que vous l'admirez beaucoup.
C'est vrai.
Est-ce qu'il est un philosophe?
Toby, moi, ce que j'apprécie, c'est sa transversalité. C'est quelque chose qui manque vraiment dans le paysage intellectuel français, cette transversalité. Quelqu'un qui est capable d'écrire un polar, de faire une conférence savante, de tenir une consultation en ethnopsychiatrie, d'écrire un livre de vulgarisation scientifique, d'écrire un roman autobiographique qui va être sur la liste du Goncourt. C'est cette transversalité-là, et puis aussi d'écrire des chroniques dans un journal, dans un magazine. On en manque vraiment. On a une spécialisation des savoirs dans l'université contemporaine qui me laisse penser d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui dessèche la philosophie aujourd'hui. Quand vous regardez les grands philosophes de la génération la plus âgée, les Clément Rosset, les Nicolas Grimaldi, tous les grands professeurs de la Sorbonne, des universités des années 60, ces gens-là parlaient de tout. Et ils avaient un langage qui n'était jamais totalement inaccessible aux profanes. En fait, on est entré dans une nouvelle ère scolastique où les gens se sont spécialisés et ils signalent leur spécialisation à grand renfort de jargon. Et je trouve que c'est un acte philosophique que de garder un rapport avec le transversal, le général, la langue commune, de ne pas s'enfermer dans les jargons scolastiques. Oui, c'est un acte de résistance philosophique aujourd'hui.
Ben merci d'avoir été l'invité de Toby Nathan. Et l'invité.
Il parle formidablement bien.
Hein. Il parle bien. Vous pensez qu'il faut qu'on l'engage à la radio?
Oui, ouais, je pense.
Merci de votre conseil. On va pas tout à fait vous quitter, Alexandre Lacroix, parce qu'en plus d'être patron de la revue Philosophie Magazine, vous avez co-créé, co-fondé une école d'écriture à Paris qui se trouve aux 4 rue Dante, dans le 5e arrondissement. On choisit l'atelier mené par un auteur qu'on aime et on passe plusieurs séances à écrire et à lire son texte devant les autres, devant l'auteur. Et parmi ses auteurs, tiens, il y a Toby Nathan.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Tout le monde est assis autour de la table.
On commence ou quoi?
Je vous propose de commencer un récit avec pour thème ces rencontres de deux personnes qui ont deux langues différentes et qui décident, sous le coup de la passion, amoureuse peut-être, ou avec d'autres intérêts, de se mettre à la colle. Donc je vous donne 25 minutes. On travaille ?
Je suis Élise Nebout et je suis directrice et cofondatrice de l'école d'écriture Les Mots. Je suis passionnée d'écriture depuis tout le temps. J'ai testé tous les ateliers d'écriture qui existent. N'ayant jamais trouvé chaussure à mon pied, nous avons décidé avec mon associé Alexandre Lacroix, qui est directeur de Philosophie Magazine, de créer un endroit un peu différent pour tous les gens qui aiment écrire et lire d'ailleurs. Ce qui est intéressant chez nous, je pense, c'est qu'on laisse vraiment une marge de manœuvre aux écrivains pour partager ce qu'ils ont appris en chemin et sur le chemin de l'écriture.
Pourquoi Toby Nathan ?
Parce qu'il nous plaisait, parce qu'on l'a lu, parce que c'est une personnalité à part.
Qui vient ? Est-ce qu'on peut faire une sorte de synthèse sociologique de vos apprentis écrivains ?
C'est très très varié. On a des femmes, des hommes, des gens qui travaillent, des gens qui sont à la retraite, des étudiants. Dans un atelier, se côtoient tout un tas de gens qui n'auraient peut-être pas l'occasion de se côtoyer autrement.
Vous pensez que ça fait du bien d'écrire ? Vous pensez que ça fait bouger des choses ? Vous avez là des exemples, peut-être, depuis que vous avez mis en œuvre ce projet ?
Tout à l'heure, par exemple, il y a moins de 10 minutes, je parlais avec une jeune femme qui revient de 3 ans en Afrique, qui écrit, et en fait, elle a entendu parler des mots, elle se disait qu'elle allait devoir écrire dans des cafés, elle a écrit un petit post sur son blog, et elle a dit que à chaque fois qu'elle venait ici, quand elle repartait, elle avait le cœur léger. Et c'était une petite phrase comme ça, mais beaucoup de gens qu'on côtoie ici nous disent ça. Merci. Et quand ils nous disent ça, on sait qu'on est sur la bonne voie, parce que réellement, on le fait pour ça.
Ça coûte combien ?
Alors, ça coûte 35 euros la séance de 2 heures.
On va revenir tout doucement. Alors, juste quand ça vient, faut que ça s'arrête. Alors, vous vous sentez visé, vous avez raison.
Ah, j'aime pas quand j'ai pas pu me relire avant de...
Vous pouvez grossir les caractères, peut-être.
Non, ça va, c'est juste que j'aurais voulu le relire.
Non, bah non, comme ça, ça vous fait relire, voilà.
Oui, bah oui, en direct, ouais. Ça avait mal commencé. Il s'était moqué d'elle parce qu'elle lisait Senghor. Laisse-moi deviner, master en études postcoloniales. L'Afrique te dit merci. Elle avait levé les yeux vers lui et rencontré son regard arrogant. Pardon ? C'est vous cette passion que vous avez tous pour Senghor ? Qui ça, nous ? Vous ? Vous les Européens, vous les Français ? Mais bon, peut-être que l'année prochaine, quand tu seras grande, tu passeras à Césaire. Elle avait souri. En fait, je suis plus Fanon que Senghor et Césaire réunis, mais j'ai un boulot à finir, tu permets ? Son visage s'était éclairé. Il s'était excusé et lui avait proposé un café pour se faire pardonner. D'habitude, elle rembarrait tous les mecs qui interrompaient ses lectures. Elle savait se montrer cassante et son très snob accent britannique faisait le reste. Si elle venait à la bibliothèque de Yale, c'était pour trouver le calme et l'inspiration, pas pour rompre son célibat. Il s'était installé à la terrasse de Starbucks à la sortie du campus parce que c'était le seul endroit où elle pouvait commander un chai soja latte.
Un quoi ?
Un chai soja latte.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un thé, un thé au soja. Latte.
Avec du lait.
Voilà.
Ah oui, d'accord.
Mais du lait au soja.
Un thé au lait, quoi.
De soja.
Au lait de soja.
Pardon.
4 heures plus tard, le café fermait. La température avait chuté et il n'avait pas bougé. Ils avaient parlé de Bellatar et de la Juventus de Turin, de Thieboudienne et du sexisme à Hollywood, de la nouvelle vague d'auteurs nordiques et des relations à distance. Il n'y avait eu aucun temps mort et ils avaient sauté du coq à l'âne jusqu'à ce qu'il lui propose d'aller dîner. Il connaissait un petit resto sénégalais où elle pourrait goûter son premier Thieboudienne.
Waouh!
Excellent!
Hein?
Excellent!
Elle est forte, hein? Elle est forte, hein? Je ne peux pas se laisser impressionner par l'émotion. Comment faire?
C'est construit.
Ouais, c'est construit.
C'est construit. Le final est tellement inattendu et contrasté par rapport au début de l'histoire. C'est vraiment... j'ai envie de te dire, tu es un vrai écrivain. Ça, sur 300 pages...
Ça passe, exact. Exact.
On est d'accord.
Vous vous appelez comment?
Pamela Pianezza.
Faites quoi dans la vie?
Je suis photographe et journaliste et je travaille essentiellement dans le cinéma et la littérature.
Alors on pourrait se dire qu'a priori vous n'avez pas besoin de venir à un atelier d'écriture.
On a tort, je pense que vraiment l'atelier d'écriture c'est une chance. Alors c'est vrai que peut-être que ça dépend aussi du groupe dans lequel on se retrouve, mais l'écriture c'est quand même une activité très solitaire. On a rarement un retour. Alors l'écriture journalistique en plus c'est particulier, j'ai pas besoin de vous expliquer la complexité des formats aujourd'hui, c'est de plus en plus de frustration, c'est un métier magnifique mais on reste beaucoup sur sa faim. Et donc l'écriture ici c'est un espace de liberté complète, on se confronte à d'autres univers, à d'autres écritures, on a une sorte de maître autour de nous, qui est pas dans le sens scolaire, mais quelqu'un dont on admire le travail et dont on admire le point de vue, qui nous donne un retour sur ce qu'on fait, sur comment progresser, et ça je trouve ça a pas de prix.
Il est comment Toby Nathan? Vous l'avez choisi?
Alors Toby, c'est drôle parce que justement je l'ai d'abord découvert par la radio. Il a d'abord été une voix avant d'être un auteur pour moi. Et c'était quelqu'un que j'aimais écouter parce qu'il m'emportait à chaque fois dans des mondes incroyables. Ensuite j'ai découvert son travail autour du rêve, donc je l'ai beaucoup lu. Et Toby, il est très drôle, il est très généreux, il est percutant. Il est très honnête. Il y a certains ateliers où on se contente de se faire des compliments et c'est pas comme ça qu'on progresse. Alors que Toby, sous couvert d'humour, il dit les choses.
Il a dit peu de choses finalement aujourd'hui. Il a écouté vos textes.
Oui, c'est vrai. Mais le peu qu'il dit, je trouve que ça donne des pistes pour progresser.
Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous?
Il m'a encouragée à travailler mes personnages. C'est-à-dire que mes personnages étaient déjà là, mais j'étais encore un peu... J'arrive assez facilement à développer des histoires, des contextes, des univers. Donc ça, c'est quelque chose que j'arrivais à faire. Il m'a un peu forcée à faire exister davantage mes personnages dans ces histoires-là.
Alors, on a dit qu'on s'arrêtait là, parce que c'est l'heure. Et donc, je vous invite à terminer vos textes, etc., à nous les faire partager. On saute deux jeudis et on se retrouve le deuxième jeudi de novembre.
C'est ça.
Je reste prisonnière, prise au piège de tes merveilles. Écoute mon cœur, il t'appelle aussi fort qu'il le peut. Regarde un peu ma lueur, autant que tu veux. Et vole vers moi. Oui, vole vers nous. Laisse-moi te guider, te mener au bout de nos rêves. L'horizon est à nous. de nos peines. Écoute un peu ma complainte. Je suis là près de toi, tapis dans l'ombre ou l'aurore. Je suis toi, tu es moi, et je vole vers toi. Oui, je vole vers
Sandra Nkake, chanteuse et comédienne franco-camerounaise, Mon cœur, extrait de son troisième et dernier disque. Il y a une exposition magnifique en ce moment à la Fondation Cartier à Paris sur le grand photographe malien Malik Sidi Bé, mort il y a un an. On l'appelait l'œil de Bamako. Vous connaissez ces images, Toby Nathan?
Ouais, bien sûr, je connais. Il faisait des photos fabuleuses, c'est-à-dire, il faisait poser les gens, hein.
Il avait un studio, c'est vrai, le studio Malik.
Ouais, absolument. Il faisait poser les gens et dans des attitudes et ça correspond un peu à une autre perception de la photo, d'abord ancienne, puis c'est une perception des mondes où il y a peu d'images, en fait, hein, et où une image, c'est quelque chose, quoi. Hein. Donc, on faisait une photo, et cette photo accompagnait la famille pendant des années, et des dizaines d'années, parfois.
Oui, il y avait son studio où tous les Maliens, d'ailleurs, se précipitaient, pas seulement les bourgeois.
Sûr. Hein. Bien sûr.
C'était vraiment le peuple qui allait chez Sidi Bé. Et puis, il a photographié, dans les années 50 et 60, surtout, la jeunesse africaine en mutation. C'était l'époque de l'indépendance au Mali.
Ouais, ouais.
Et il y avait là des bergers qui venaient le voir. Il y avait des boxeurs, des adolescents, tout apprêté. On va en parler avec André Magnin. C'est le commissaire de l'exposition Sidi Bé à la Fondation Cartier. Il a contribué à faire connaître le talent du photographe en Occident. Et il raconte Malik Sidi Bé à Elsa Denac.
On part en voyage en Afrique de l'Ouest, dans le Bamako des années 60 et des années 70, dans le Mali devenu indépendant, qui assiste à des moments de grande liberté, qui assiste à la déferlante des musiques rock, twist, pop, des danses slow, cha-cha-cha, hula-hoop. Tous les vendredis et samedis, il y avait des quantités de surprise parties. Et pour que la surprise partie trouve le succès, il fallait Garincha, qui était le meilleur DJ, et il fallait surtout Malik Sidi Bé, qui créait l'ambiance. Parce que quand il était là, on était sûr d'avoir des belles photos. Malik est là ! Malik est là ! Hop, ça partait dans la folie du twist.
Malik Sidi Bé.
Parce que avoir une fille, causer avec une fille, c'était pas facile à cette période. Mais quand ils font le bal, alors ils peuvent se parler, ils peuvent se toucher. Ouais. C'est pourquoi toutes les fêtes, et on inventait même des fêtes, les jeunes inventaient même des fêtes pour pouvoir danser avec leurs filles qu'ils aiment. Mmh. Ouais, quoi. Alors ça, j'ai eu la chance de tomber sur une période comme ça, vraiment où la jeunesse était folle, avec cette liberté. C'était très gai.
Cette image ici, qui est la nuit de Noël, quand on dit nuit de Noël, elle n'a pas été prise le 25 décembre, c'est le Noël musulman, c'est lors d'une surprise partie, c'est certainement un twist, parce que vous avez le frère qui apprend à sa sœur à danser le twist. Regardez la tendresse qui se dégage de cette jeune fille qui écoute son frère et qui regarde les mouvements de ses jambes pour faire pareil. Et regardez le sourire de ce garçon. Et puis les vêtements, vous avez les habits à la mode de 63, avec cette robe à la mode de cette jeune fille qui normalement devrait être en boubou. C'est les premières qui portent des robes, c'est tout nouveau. Et les garçons qui ne sont pas en boubou non plus, qui portent des costumes, pas d'éléphant, la cravate, ils ont la classe. Come on, Malik Sidibé, il est proche de la jeunesse, il est un peu plus âgé, et en général, en Afrique, l'aîné est trop respecté. Donc les jeunes hésitent à s'exhiber devant le photographe. Sauf que Malik, il aime tellement cette jeunesse qu'il les met en confiance, envoie de l'enthousiasme, de l'espoir, de la vitalité, de la joie. On est indépendant, on est libre, on partage la modernité en même temps que l'Occident. Et évidemment que la jeunesse est tellement fière de tout ça qu'il s'amuse.
On suit aussi avec ses photos l'histoire du pays.
Comme il le dit, j'ai cru au pouvoir de l'image. La photographie, pour lui, c'est l'art le plus supérieur pour donner des images de l'autre, des images d'une mémoire de cette jeunesse qui découvre les libertés. L'indépendance du pays en 60 crée un enthousiasme qu'on ne connaîtra plus en Afrique à partir de la fin des années 70. Quand je le rencontre en 92, le noir et blanc n'existe plus. Il ne fait plus que des photos de studio pour les photos d'identité, pour les passeports, parce que la photo couleur, elle a pris la place du noir et blanc. Lui ne fait pas de la couleur, parce qu'on ne sait pas tirer la couleur, ça coûte beaucoup trop cher. Donc il ne fait plus que des photos pour les passeports, des photos d'identité, et il répare les appareils photo. Là, on est en 92. À cette époque-là, ça fait 15 ans que Malik gagne presque plus d'argent. 62, 60, 80, on va dire, c'est son grand succès. C'est l'idole de la jeunesse, tout le monde l'aime, tout le monde lui achète des photos à son studio, il gagne bien sa vie. À partir du début 80, c'est la fin. Et quand je le rencontre, son studio, c'est presque rien. Par contre, le succès qu'il a eu grâce aux rencontres photographiques de Bamako 94, puis la première grande exposition et le premier livre, il retrouve un succès mondial. Et il reprend du service, si je puis dire. Il est tellement connu que tout le monde passe dans son studio à Bamako et se fait tirer le portrait. Malik Sidibé, il n'a pas fait cette œuvre en la pensant comme une œuvre. Il a seulement voulu donner de faire plaisir à la jeunesse, être généreux. Tout ça confondu entre l'époque, la joie, l'enthousiasme, sa passion pour la photographie, son amour des gens, la confiance que lui faisait, ça donne une œuvre exceptionnelle.
Bon, ben venez tous voir Malik.
C'est une exposition où on ne peut ressortir qu'avec de la joie.
On va continuer de se promener dans votre grand atelier. On parlera des patients que vous recevez dans le centre que vous avez créé, le centre Georges Devreux à Paris. On parlera aussi d'une femme qui épousa Goebbels, le bras droit d'Hitler, Magda Goebbels. Riche et éclectique programme dans un instant. On se retrouve après les infos. C'est la suite du grand atelier de Toby Nathan, l'écrivain, le psychologue, l'ethnopsychiatre qui reçoit des familles de migrants entourées d'une équipe de psy, d'assistantes sociales, de travailleurs sociaux dans un centre que vous avez appelé, Toby Nathan, le centre Georges Devreux, du nom de l'inventeur de l'ethnopsychiatrie.
Oui, il a créé une discipline.
Eh bien, on va se rendre au centre Georges Devreux. Alors, pas à une consultation, ça c'est impossible. Les personnes sont là discrètement, de façon anonyme. On n'a pas pu et pas voulu surtout les déranger. Mais vous m'avez autorisé à venir à une réunion, à une rencontre entre toute l'équipe que vous dirigez. Direction le centre Georges Devreux, c'est à Paris. C'est boulevard Sébastopol.
On va s'organiser.
Peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous faites ici tous ensemble.
C'est peut-être Catherine qui va expliquer, moi je crois. C'est Catherine Gransart. Elle, c'est la chef de tout.
Alors, on fait plein de choses en fait au Centre Georges Devreux. On reçoit des familles qui viennent de partout, souvent à la demande d'autres institutions, que ce soit les juges des enfants, les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance. Et puis on a un service qui s'appelle un service d'investigation éducative, qui est un service d'aide à la décision du magistrat pour des situations de jeunes en danger. de mineurs en danger. Et donc on a 123 situations par an de jeunes en difficulté, soit parce qu'ils sont des mineurs non accompagnés, donc des jeunes qui sont des migrants dont les parents ne sont pas avec eux. Et souvent, ils ont des difficultés à comprendre les logiques de ce qu'on leur propose ici. Et puis on reçoit aussi des jeunes avec leur famille, donc leurs parents, avec des problématiques très diverses.
Autour de nous, on a principalement des thérapeutes, des psychiatres, des médecins. Vous pourriez
me... Zéro psychiatre, oui. Zéro médecin. Il y a surtout des psychologues et des travailleurs sociaux.
D'ailleurs, ça n'existe pas, ethnopsychiatre. C'est un abus de langage, en fait. Hein. Ethnopsychiatrie, c'est un domaine de recherche. Et c'est le contraire de la psychiatrie, ethnopsychiatrie. Hein. On pense que des peuples éloignés, qui n'ont pas d'académie, qui n'ont pas de choses structurées autour de l'enseignement comme nous, ont tout de même des pensées savantes et une transmission de ces pensées savantes, et des pensées savantes sur ce que nous appelons le désordre psychologique ou mental, et c'est ça qu'on appelle une ethnopsychiatrie, c'est-à-dire une prise en charge du désordre psychiatrique à partir de systèmes traditionnels. Et donc, quelqu'un qui fait de l'ethnopsychiatrie s'est spécialisé dans la connaissance de ces univers-là. Et donc, avec cette connaissance, il essaye de prendre en charge des gens ici. Donc, ethnopsychiatre, ça n'a pas de sens, en fait, en vérité. Je suis un psychologue qui fait de l'ethnopsychiatrie. Le mieux de ce que nous savons faire, nous l'offrons aux gens qui en ont le plus besoin. Voilà, c'est notre idéologie, en fait.
Qu'on doit aborder cet après-midi, c'est des histoires de passion amoureuse. On doit traiter une situation très compliquée d'une femme qui aime deux hommes et ça fait des années que ça dure. Et
elle est d'où ?
Elle est d'Afrique de l'Ouest, elle. Elle aime deux hommes et elle a des enfants de chacun des hommes et elle passe d'un homme à l'autre et nous, on essaye de trouver une solution pour que les enfants soient pas non plus le jouet de problèmes de couple. Enfin, là, c'est pas un couple, je sais pas comment on dit. C'est pas un trio, hein, attention, hein, elle ne mélange pas, mais c'est très compliqué. Voilà. Et donc, on a besoin d'une supervision avec le professeur. Pour comprendre comment on va l'aider, et on va aider les enfants, et on va expliquer au juge des enfants, voilà la situation, voilà. Parce que tout le monde souffre.
Juste une précision par rapport à ce que disait Nathalie, c'est que elle évoque à chaque fois le médiateur, je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que à chaque fois nous tâchons, même si les gens parlent français, d'avoir dans la consultation quelqu'un qui parle la langue de la famille. Donc on a un expert à peu près sur toutes les cultures avec lesquelles nous travaillons, quoi. Parfois, on l'a pas, et donc on le cherche.
Vous sauriez dénombrer ces cultures ?
Je sais pas, 20, 25, peut-être 30 langues avec lesquelles nous travaillons.
Nos camarades travailleurs sociaux, c'est eux qui sont chargés d'entrer en contact avec la famille au début, pour organiser la première rencontre. Et souvent, le médiateur, quand la famille comprend rien, ou est complètement récalcitrante, n'est pas d'accord avec l'idée même de venir, le médiateur ou la médiatrice, en parlant la langue, en leur expliquant les choses d'une manière qui puisse être intelligible pour eux, parvient à les mobiliser. Donc c'est vraiment beaucoup plus qu'un interprète, un médiateur. C'est pas du tout le même travail, en fait.
Moi, je suis éducateur spécialisé.
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Anthony, Anthony Martin.
Pourquoi vous travaillez ici ?
L'ethnopsie, c'est... ça te prend et ça... ça n'a pas de limite, donc on apprend tous les jours en fait. Les familles qui viennent ici, on a l'impression d'apprendre tout le temps. On apprend de la vie des gens, on apprend par quoi ils sont passés, on apprend à décoder les gens, à décoder aussi leur parcours, pour les rendre, encore une fois, intelligibles, pour pas que ça se reproduise, pour essayer de contrecarrer parfois des dynamiques, des malédictions même peut-être. Les gens, peu importe d'où ils viennent, on s'assoit pour essayer de comprendre d'où ils viennent. Et puis ça, c'est tout un travail, donc ça nous prend toute notre tête, tout le temps.
Amélie, vous faites quoi, vous ?
Je suis assistante sociale, donc on reçoit les familles pour les juges des enfants. Et en général, on a 5 mois et demi pour recevoir les familles, donc on les reçoit entre 3 et 6 fois, ça dépend du nombre d'enfants.
On s'intéresse quand même à leur situation administrative, puisque ça fait partie de la problématique. Donc effectivement, une personne qui n'a pas de papier ou qui doit attendre un rendez-vous à la préfecture ou qui n'a pas de droit à la sécurité sociale ou si ça n'a pas encore commencé, en tout cas été mis en place, forcément ça pose un problème dans son accompagnement quotidien, dans sa prise en charge. Donc bien sûr, on en parle et sur ce que ça peut faire que d'avoir ou pas des papiers, on en parle aussi et on le traite aussi comme une vraie question.
Nous, on a un travail d'apprivoisement de leur monde, mais aussi on leur rend notre monde accessible aussi. C'est-à-dire on leur traduit quels sont les parcours, quels sont les chemins, comment est-ce qu'on peut accéder à notre monde. Et ça, c'est indispensable parce que ce boulot-là, personne ne le fait, quoi. Il faut aller à tel endroit, à tel bureau, il faut demander telle chose, voici le formulaire qu'il faut remplir, etc. Toutes ces choses-là, c'est indispensable. Les migrants, personne ne leur explique ça. Et donc, on fait ça aussi ici, hein.
On cherche toujours à avoir les coordonnées de la famille au pays. Ça peut être au fin fond de l'Afghanistan, de la Chine, de l'Afrique centrale, enfin. Et on se dit, c'est pas possible, les gens sont pas nés comme ça dans une plante ou dans le métro. Il y a forcément des gens derrière, même s'ils sont pas ici, ils sont loin, etc. On va rentrer en relation avec ces gens-là, avec la famille. Et notre travail commence, enfin, va avec ça, c'est-à-dire qu'ils retrouvent des numéros de téléphone, des gens, et on appelle avec le médiateur, évidemment, et là, il se passe toujours quelque chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en contact avec la famille qui est restée au pays, qu'on commence à donner des nouvelles, qu'on commence à discuter, ça enclenche des processus psychologiques et psychothérapiques incroyables. Donc c'est aussi un des atouts du dispositif Ethnopsie, c'est d'aller se relier. Les gens arrivent ici en France, mais nous, avec le téléphone, avec l'Internet, avec Facebook, avec tout ça, on va aussi retrouver les gens qui sont restés derrière.
Il faut bien comprendre qu'un migrant qui arrive en France, il rencontre pas la France. La France, c'est une abstraction. Il rencontre des travailleurs sociaux, en fait. Et donc, l'étrangeté de la France, ce sont les travailleurs sociaux. C'est-à-dire, il rencontre l'école, ils rencontrent l'hôpital, ils rencontrent les services sociaux, ils rencontrent ces personnes-là qui lui posent problème. Donc c'est là que naissent les malentendus. On a un boulot d'explicitation. Qui est cette famille? Quelles sont ses préoccupations? Pourquoi elle a telle difficulté ou telle autre? D'expliquer ça aux travailleurs sociaux qui, la plupart du temps, sont de bonne foi. Mais simplement, ils n'ont pas compris. Et quand on leur explique, les difficultés s'aplanissent avec les familles. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup ça, les éducateurs. Et c'est un boulot indispensable.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Voilà. Une photo, si je puis dire, une photographie du centre Georges Devreux, c'était il y a quelques jours. Il faut préciser, Toby Nathan, qu'il a été, Georges Devreux, le héros d'un film d'Arnaud Desplechin, Jimmy P, avec ouais. Mathieu Amalric.
Ouais.
Georges Devreux, évidemment, vous l'avez connu parce que vous avez travaillé sous sa direction, Toby Nathan.
Oui, il a été mon directeur de thèse, ma thèse de doctorat de troisième cycle. Et ensuite, j'ai travaillé avec lui, c'est-à-dire que on a fondé une revue ensemble, la première revue d'ethnopsychiatrie, et puis... Ensuite, je le remplaçais à son séminaire, puis j'étais son assistant aussi. Et puis après, on s'est séparés, et puis chacun est parti de son côté. Mais j'ai travaillé 10 ans avec lui.
En bon terme ou mauvais terme?
Quand on se séparait, on se sépare jamais en bon terme.
Cet homme est honnête, mesdames, messieurs. François and the Atlas Mountains sur France Inter.
Je veux voir mon père au sommet d'une montagne libre. Je veux voir ma mère sous le soleil de juillet radieuse et toutes les craintes, toutes les angoisses évanouies. Je veux voir ma sœur d'un autre pays, viens chez toi sans
peur. Viens t'installer ici, faire une famille. Et tout ce qui, lorsqu'ils parlent, me disent, crache des grenouilles, mourront de trouilles. Tant la rumeur, qu'ils grossissent leur fait peur, ils vont périr. De tous les irascibles, de tout ce qui, lorsqu'ils parlent, me disent, crache des grenouilles, mourront de trouille. Tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur. Ils vont
le grand atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Toby Nathan, vous avez en face de vous Philippe Pignard.
Oui.
Je vous laisse nous le présenter et je le salue. Bonjour.
Bonjour.
Philippe, c'est un éditeur, mais un vrai. Je veux dire, c'est... Non, je connais plein d'éditeurs, hein, évidemment. Mais c'est un éditeur, c'est un vrai. C'est-à-dire qu'il va chercher des auteurs et parfois, il les fait accoucher de leurs livres. Il viendrait vous voir, il dirait, Vincent Josse, vous portez un livre, mais vous ne le savez pas encore. Moi, je vais vous le faire mûrir et ensuite, je vais vous le faire accoucher.
Vous êtes un sorcier, Philippe Pignard.
Non, pas du tout, Toby. Enjolive toujours beaucoup les choses.
Votre collection s'appelle Les empêcheurs de penser en rond.
Oui, en fait, c'est une collection qu'on a créée avec Isabelle Stengers, et qui est philosophe des sciences, et philosophe tout court d'ailleurs, à l'Université libre de Bruxelles, et qui m'a fait rencontrer Toby Nathan. Donc quand on a créé cette collection avec Isabelle, très vite, Isabelle m'a dit, il faut que tu connaisses Toby Nathan, il faut que tu ailles voir ce qui se passe au centre de Evreux, qui à l'époque était dans l'université de Paris 8. Et donc j'ai assisté à ce moment-là au travail que faisait Toby, et ça fait une trentaine d'années donc qu'on s'en a pu se côtoyer, travailler ensemble, et qu'une série de croisements ont eu lieu avec Isabelle, Bruno Latour, une série de gens comme ça, qui ont tous été très passionnés par le travail que faisait Toby Nathan.
Qu'est-ce que vous avez vu quand vous l'avez vu à l'œuvre ?
J'ai pu participer à la consultation d'ethnopsychiatrie.
Racontez-nous.
Et la consultation d'ethnopsychiatrie. En ce sens-là, il y a une vraie rupture entre Devreux et Toby. Toby Nathan ne le dira pas parce que modestie oblige, mais il est l'inventeur d'une pratique clinique nouvelle que Devreux n'avait pas ni initiée ni organisée. Il a inventé une nouvelle pratique clinique qui consiste à cette consultation collective dans laquelle on reçoit... Enfin, les thérapeutes du centre reçoivent des familles et dans lequel on va discuter des problèmes que rencontre cette famille ou des membres de cette famille dans un échange où il y aura des gens qui appartiennent à la même culture. Des thérapeutes appartiennent à la même culture que les gens qui sont là et pourront discuter avec eux de, par exemple, comment au pays on parlerait de ça ? Qu'est-ce qu'on dirait pour décrire ce qui se passe dans le pays d'origine de ces migrants ? Et d'un seul coup s'engage une espèce de dynamique très originale et très nouvelle, où on remonte des fils comme ça, tout à fait étonnants, et on découvre des choses qui sont tout à fait fascinantes et qui vont servir d'appui pour des techniques de guérison qui sont à chaque fois sans doute spécifiques à la culture auquel les gens appartiennent. Moi, je me rappelle avoir participé à des consultations, il y avait des gens qui venaient d'Haïti, justement, on s'en parlait tout à l'heure, mais aussi des gens qui venaient d'Algérie, qui venaient de toutes les parties du monde. Et à chaque fois, évidemment, il y a des techniques de guérison qui sont employées, qui ça sont, même pour ceux qui assistent comme moi, restent en partie un peu mystérieuses, mais dont j'ai pu constater l'efficacité absolument extraordinaire. Bruno Latour avait eu une image pour décrire ce qui se passait, il avait dit que c'était un vrai cyclotron. Cette consultation, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit, un espèce d'accélérateur de particules, un espèce d'endroit où d'un seul coup des choses surgissent dont on n'avait pas pu avoir idée à l'avance. Et ça, je trouve que c'est une expérience tout à fait étonnante ce qui se passe dans ce centre. Et maintenant, je crois qu'il y a plusieurs générations de jeunes psychologues, d'étudiants en psychologie qui sont passés par là, qui ont été transformés et qu'on retrouve maintenant un peu partout, qui irriguent toute une partie de la psychologie française et qui font des travaux fascinants.
J'ai juste assisté avec les auditeurs désormais à cette réunion des thérapeutes, on peut dire, et des travailleurs sociaux. Et j'ai vu une passion totale de chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui est si passionnant ?
Je vais vous dire, on est plus efficace dans le traitement qu'on fait à des gens si on découvre quelque chose en les soignant. Si on applique une méthode qu'on connaissait déjà, si on trouve ce qu'on pensait déjà trouver en arrivant, les gens vont pas mieux. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire, si on arrive à se mettre en condition pour inventer au moment où on travaille avec des gens, à ce moment-là, les gens vont mieux. Donc, c'est indispensable, la passion. Alors, Freud se moquait de ce genre de choses. Il disait, de Ferenczi, il disait, il est agité par la furor sanandi, la fureur de guérir, quoi. Et ben, je pense que sans la fureur de guérir, il n'y a personne qui guérit, quoi. Donc, il est indispensable d'être embarqué dans une découverte. Et donc,
vous avez toujours dit, des émigrés, ils m'ont appris mon métier.
Ah oui, bien sûr. C'est les patients qui m'ont appris, qui m'ont contraint, en fait, à aller chercher. Vous voyez arriver des gens qui viennent d'un pays lointain, ils baragouinent en français. Parfois, ils parlent très bien le français, mais par exemple, certains parlent mal le français. J'ai du mal à imaginer qu'un psy pourrait faire des consultations sans se dire bah, il faut les mettre dans leur langue, il faut les mettre à l'aise dans leur langue, quoi. Et même s'ils sont à l'aise dans notre langue, ils ont plein de choses à dire dans leur langue qui ne doivent pas être la même, hein. Et ça m'a étonné que ça ne soit pas une évidence.
Philippe Pignard,
oui,
monsieur l'éditeur.
Il y a un vrai renversement qui a été opéré, je trouve, dans le travail de Toby Nathan et de l'équipe de Devreux. C'est que les patients ont été mis en situation d'être les experts de leur situation. C'est eux les experts. C'est-à-dire que c'est tout à fait typique. Il n'y a pas de division dans ces réunions entre ceux qui sauraient, qui seraient détenteurs d'un savoir spécial, qui seraient les psychologues, les thérapeutes, éventuellement les psychiatres, puisqu'il peut y avoir des psychiatres ou des assistantes sociales qui sont là. Mais celui qui est mis au centre comme expert de sa situation, comme expert des connaissances, comme expert des savoirs, c'est le patient lui-même. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à interroger le reste de la psychiatrie. Oui. Toby Nathan donnait l'exemple des entendeurs de voix, qu'on caractérisait comme schizophrène, sans plus réfléchir auparavant. Si on s'adresse à quelqu'un qui entend des voix en lui disant « t'es un malade mental, t'es schizophrène, je vais te donner des neuroleptiques pour assécher les voix que tu entends et t'entendras plus rien », c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui serait de dire, et qui commence à être pratiquée, qui commence à te dire « tu entends des voix, t'es un expert en la matière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce que c'est que d'entendre des voix? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres qui entendent des voix et que ça ravage ?» Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour essayer de discipliner les voix qu'on entend? Et là, d'un seul coup, s'inventent des pratiques totalement différentes qui sont aujourd'hui en cours dans des petits secteurs de la psychiatrie comme celui des entendeurs de voix, mais qui, je pense, prennent naissance. Enfin, en tous les cas, ceux qui ont initié ça, c'est le centre Devreux et les praticiens réunis autour de Toby Nathan.
Ça vous donne envie, Philippe Pignard, de faire quel livre avec Toby Nathan? Qu'est-ce que vous lui proposez comme livre en général? Parce qu'il écrit un peu partout.
Toby Nathan écrit un peu partout, mais c'est ça sa liberté. Et je trouve que c'est très bien qu'il fasse ses romans aux bons endroits, qu'il fasse des essais aux bons endroits aussi. Après tout, il peut changer. Sur le dernier, par exemple, Les âmes errantes, que j'ai là devant moi.
À l'iconoclaste, oui.
C'est un livre, quelque part, qui est au croisement des romans qu'il a pu écrire, et entre autres du dernier, et des essais qu'il a écrits, avec l'invention de concepts nouveaux. Et moi, je remarquerais deux choses totalement nouvelles dans ce livre qui, moi, m'ont frappé.
Permets juste, s'il vous plaît, de préciser que c'est une sorte de compte-rendu, effectivement, assez romanesque, de ces rencontres avec des jeunes qui ont très envie de se radicaliser.
Et là, je trouve que, si vous voulez, il y a deux choses qui m'ont frappé en lisant ce livre. C'est d'abord une série de concepts nouveaux que Toby n'avait pas expérimenté jusqu'à présent. Pour donner un exemple qui me semble très important, c'est qu'on a souvent reproché à l'ethnopsychiatrie d'enfermer les gens dans leur monde et, en gros, dans leurs racines. Et Toby Nathan propose là un petit changement. C'est pas les racines des gens qui sont intéressants, c'est les sources auxquelles ils peuvent s'abreuver. Et ces sources-là, elles sont dans leur histoire. L'histoire de leur famille, l'histoire de leurs grands-parents. Et ça, il en parle à propos de lui-même, d'ailleurs, puisqu'il part en permanence dans ce livre aussi de son propre parcours, en tant que quelqu'un qui a été chassé d'Égypte sous Nasser, et qui est venu en Europe, et qui a donc connu l'immigration, qui a connu tout cela. Et en même temps, je trouve qu'il y a une deuxième chose qui rend ce livre très précieux pour moi, par rapport à toute l'œuvre précédente de Toby Nathan, c'est que ce livre-là parle d'un sujet, comme vous l'avez dit, à savoir les jeunes en voie de radicalisation, en voie d'islamisation radicale, et c'est un sujet qui, normalement, suscite une colère immense.
Ouais.
Et une colère des deux côtés.
Ouais.
La colère des gens victimes la colère des amis et des gens qui ont entouré les victimes, la colère des hommes politiques qui peuvent éventuellement instrumentaliser cette colère, et puis la colère de ces jeunes qui manifestement sont en colère. Et dans ce livre-là, par rapport à tous les autres livres que Toby a écrit, il n'y a rien qui ne relève de la colère. C'est un livre qui est d'une... Je ne sais pas quel est le contraire du mot colère, mais d'une...
La sérénité.
J'ai presque... D'une sérénité. Enfin, en tous les cas,
ça ne me ressemble pas tellement.
Je dirais plutôt d'une dignité par rapport à ce sujet, qui est toujours la même technique, c'est-à-dire qui va jusqu'à dire « mais ces jeunes qui se radicalisent, si on se mettait à les considérer aussi comme des experts de quelque chose qui nous arrive, si eux avaient quelque chose à nous dire qu'il faut aussi entendre ». Je souligne que la proposition est radicale, mais que si on n'en passe pas par là, on ne comprendra rien à ce qui se passe. Donc ce livre-là devrait nous permettre de comprendre un peu la situation dans laquelle on est entré depuis quelques années et dont on n'est pas prêt de sortir, puisque peut-être que c'est simplement le début de quelque chose de nouveau. Et pour faire ça, je trouve que Toby Nathan nous donne son âme à voir, son âme de migrant lui-même, son âme de quelqu'un qui a vécu mai 68. Mai 68 est très important dans
comme
ce
vous, Philippe Pignard, hein,
comme moi,
ancien trotskiste.
Et, tout à fait.
Toujours
Toby
trotskiste.
Était, Toby
toujours.
Était un ancien maoïste, donc j'ai une vieille querelle là-dessus. Hein. Entre les maoïstes et les trotskistes, ça n'a jamais été...
le grand amour.
On a un problème, nous, voilà. Les maoïstes, c'est qu'il n'y a plus de maoïstes, alors que des trotskistes, il y en a toujours.
Il n'y en a plus beaucoup non plus.
Oh, la nostalgie autour de cette table. Vous avez été un critique littéraire remarquable, vous avez de la chance, Toby Nathan.
Ah, mais ça, vraiment, j'ai de la chance, j'ai des vrais amis.
Merci d'avoir été avec nous, merci de votre approche, Philippe Pignard. Éditez bien, si je puis dire. On va écouter Gaël Faye.
Enivrante, hume les fleurs, leur senteur navrante. Laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée, dévie, prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des foules, affine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, ou grand empereur de brigands, maquin d'albois, caïman. Blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes. Fuis l'ennui des villes, lis vite si ton cœur lui aussi s'abîme. Hasta la vista, je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là, attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras, traverser des campagnes, des patelins, des trois rats. M'échapper de ce bagne, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat, affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux, des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes.
se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle, inventer la lune que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile et s'enfuir vers des rives là-bas.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Gaël Faye, le rappeur et l'écrivain Gaël Faye, auteur entre autres de Petit Pays, c'était tôt le matin. Bonjour Antoine Witkin.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes l'invité de Toby Nathan, vous êtes documentariste et vous consacrez un film à Magda Goebbels, l'épouse de Joseph Goebbels, ministre de la propagande pendant le Troisième Reich. Elle s'est tuée avec son mari dans le bunker où était retranché Hitler et auparavant elle a assassiné ses enfants. Le film a pour titre Magda Goebbels, la première dame du Troisième Reich.
Son ex-mari, Comte, se souvient.
Magda était euphorique. Elle répétait sans cesse qu'Hitler irait loin et que lui seul pouvait sauver l'Allemagne.
Le 1er septembre, elle prend sa carte du parti. La rapidité de sa conversion surprend. Pourquoi une privilégiée, indifférente à la politique, cultivée, ouverte sur le monde, devient-elle une militante nazie en seulement 3 mois? Le désir d'une aventure collective, l'habileté des orateurs nazis explique-t-il tout.
Magda Goebbels, pourquoi vous êtes penché sur ce destin, Antoine Witkin?
Alors, il y a très certainement une continuité avec des films précédents qui ont un certain nombre de points communs. On ne sait jamais ce qui nous meut, hein, évidemment, et ce n'est pas Toby Nathan qui démentira cela. Rétrospectivement, il y a sans doute une cohérence avec mes documentaires précédents.
Plusieurs sur le Troisième Reich.
Voilà, alors, j'ai fait effectivement un film et un livre sur Mein Kampf, mais j'ai également travaillé beaucoup sur Kadhafi, sur Bachar el-Assad récemment, et je pense qu'ils ont tous sans doute en commun de traiter de la question de la violence politique, du mal au sens moral dans l'histoire, de se situer et de tenter plutôt de comprendre les auteurs de crimes que les victimes de ces crimes politiques. Et donc Magda Goebbels s'inscrit dans cette continuité-là. Et puis il y a également une autre raison, c'est que je voyais dans le personnage de Magda Goebbels quelqu'un qui non seulement nous parlait du Troisième Reich et de ce qu'était le système nazi, le système de pensée nazi, mais aussi d'aujourd'hui. Parce que son parcours n'est évidemment pas sans rappeler, alors toutes choses étant égales par ailleurs, je me méfie des anachronismes, mais en même temps parfois l'histoire permet de mieux comprendre notre présent, n'est pas sans rappeler le djihadisme ou la radicalisation terroriste dont on parlait tout à l'heure, et puis également un certain nombre d'autres phénomènes, dont la montée vers le pouvoir de l'extrême droite. Et donc je pressentais que dans le personnage de Magda Goebbels, il y avait quelque chose qui dépassait certainement son parcours biographique, qui n'est pas un personnage majeur du Troisième Reich, mais c'était une manière de parler d'aujourd'hui tout en essayant de comprendre un peu mieux, un peu plus ce qu'a été le Troisième Reich.
Alors parmi les personnes que vous interrogez, il y a des historiens certes, mais il y a aussi notre ethnopsychiatre ici présent, Toby Nathan. Elle vous fascine, cette femme, par sa radicalisation précisément? C'est une fanatique, Magda Goebbels.
Total, mais elle ne l'a pas toujours été. Mais elle est devenue une fanatique. Je pense qu'elle était très abîmée à la fin de sa vie. Beaucoup d'alcool, probablement d'autres substances aussi. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était quelque chose d'adjacent, en fait, hein, dans sa vie. Vous savez qu'elle avait un nom juif, hein. Comment c'était déjà ?
Friedlander.
Friedlander.
C'était son beau-père ?
C'était son beau-père.
Le deuxième époux de sa mère ?
Qu'il avait adopté. Donc elle s'appelait Magda Friedlander.
Elle avait un nom juif et elle s'entendait très bien avec ce beau-père.
Et surtout, elle allait à une école où il y avait plein de juifs qui étaient des immigrés russes, en fait. Et elle rencontrait des familles juives. Et elle participait à la vie juive de cette communauté juive de Berlin. Et là, elle a rencontré un homme qui, lui, m'a beaucoup intéressé. Et c'est à cause de cet homme, en fait, que je me suis intéressé à Magda. Cet homme s'appelle Haïm Arlozorov. Et Haïm Arlozorov est un des fondateurs de l'État d'Israël, mais il est mort bien avant l'existence de l'État d'Israël. Ce qu'on a appelé le Yishuv, l'implantation juive en Palestine, avant que ça ne soit un État. Et donc, il était probablement le chef.
Ils se sont follement aimés, tous les deux.
Ouais. Je pense que si Arlozorov avait vécu, ça aurait été lui qui aurait été le Premier ministre, et pas Ben Gurion. Hein. Donc, c'est vraiment un personnage très important. Et elle est tombée follement amoureuse de lui. Et ils ont eu une relation passionnée qui a duré très longtemps, en fait, beaucoup plus longtemps que ce qu'on raconte. Et cette relation passionnée entre Arlosorov et Magda Goebbels a été très très loin, puisqu'elle voulait se convertir au judaïsme. C'est dans les années 20, ça. Hein. Elle a voulu suivre Arlosorov en Palestine. Elle voulait devenir une pionnière juive de Palestine, quoi. Donc, cette métamorphose de Magda, qui est passée d'une passion juive à une passion nazie, c'est-à-dire les deux extrêmes, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné.
Antoine Winkin, vous avez réussi à comprendre sa radicalisation? Vous avez eu des éléments qui vous ont ouvert un peu les yeux?
J'ai essayé de la comprendre et pour cela, je me suis fait aider de Toby Nathan, avec lequel la rencontre était finalement évidente, parce que d'une part, il a consacré ce livre à Arlosorov, dans lequel, c'est une fiction, c'est un roman, dans lequel il fait exister Magda Goebbels de manière absolument saisissante. Il a sans doute compris qui était Magda Goebbels, avec le peu d'éléments, le peu de sources historiques dont on dispose. Et l'objectif de ce film, et c'est pour ça également que son témoignage était important, le film commence par un crime qui est le meurtre de ses enfants. Donc c'est une tentative d'élucider, de comprendre les raisons de ce meurtre, qui est un meurtre politique. Et pour cela, il faut faire comme on fait dans toute affaire de ce genre, une enquête de personnalité. On fait appel à des psys. Et donc Toby Nathan, à double titre, était parfaitement évident. Et il nous aide dans ce film, avec d'autres, avec un sociologue d'ailleurs, spécialiste du djihadisme, également avec des historiens bien sûr, à tenter de comprendre pourquoi. Et je pense que à l'issue du film, on a quelques intuitions, quelques éléments de réponse, même si demeurent évidemment des questions. Et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant qu'il demeure des questions sur cet acte qui nous paraît difficilement compréhensible.
Oui, elle tue ses enfants avec du cyanure.
Voilà, c'est ça. Elle tue tous ses enfants avec du cyanure.
Et puis Goebbels, elle se tire une balle. Hein.
De sang-froid. Elle assassine ses enfants. Et je voudrais rebondir sur ce dont Toby Nathan parlait, parce qu'effectivement, on est au cœur de cette histoire. Et là aussi, on voit très bien les échos à aujourd'hui. Son amour avec Arlosorov, juif, ça à tel point qu'elle a même appris, dit-on, l'hébreu et pensé émigrer en Israël. Ce beau père juif qu'il a élevé, d'ailleurs, avec une proximité avec le judaïsme.
Il va mourir dans les camps. Hein.
Qu'elle laisse mourir avec un cynisme et une froideur qui sont assez révélateurs de ce qu'était le nazisme.
Comme son amant juif va être assassiné.
Cette idéologie qui pousse aujourd'hui, par exemple, si je fais cette transposition, des djihadistes à considérer que leur famille n'a plus d'existence à leurs yeux à partir du moment où ils ne sont pas dans leur propre système de pensée. Et également, ce qu'on retrouve, là je parle à la place de Toby Nathan qui le dirait bien mieux que moi, mais ce qu'on retrouve aujourd'hui chez des jeunes radicalisés, c'est une quête identitaire qui parfois a pour origine une faille, des doubles cultures, des questions compliquées, et dans le cas de Magda Goebbels, c'est très certainement le fait d'avoir été un pied en Allemagne, en se demandant qui elle était, est-ce qu'elle était vraiment Allemagne, est-ce qu'elle était de là. Elle également, elle a passé une partie de sa jeunesse en Belgique, Magda ouais. Goebbels, qui n'est pas anodin.
Elle était francophone. Hein.
Pour vous, elle avait perdu des repères?
Je vois qu'elle a perdu des repères, c'est qu'il y a un problème de père, tout simplement. C'est-à-dire que sa mère est une gouvernante, en fait, d'un ingénieur qui tombe amoureux de sa domestique, en fait, et puis il lui fait un enfant, c'est Magda. Sauf qu'il ne veut pas le reconnaître, l'enfant. Et en même temps, il veut la garder auprès de lui. Il ne veut pas qu'elle aille avec un autre homme, cette femme. Et il ne veut pas perdre son enfant, donc il les garde, mais en même temps, en niant qu'il est le père. Donc cette relation avec un père qui est son père, mais tout sans être son père, cette relation, ça a dû avoir du mal à se mettre en place dans sa tête. Hein. Ça commence comme ça. Puis après, le père, il s'intéresse à cette gamine. Et finalement, il veut la réadopter. Mais la mère, à ce moment-là, elle a déjà un autre mec. Mmh. Donc elle est partie. Et donc ça commence très très tôt, ces affaires à Magda.
C'est un film vraiment très intéressant sur la faillite d'un projet de vie, on peut dire, hein, Antoine Witkin.
Oui, qui conduit au crime. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point c'est révélateur d'un système politique, d'une idéologie. Magda Goebbels est un condensé de sans doute ce qu'a été le nazisme. Et donc on voit bien à quel point l'intime, les parcours biographiques complexes, peuvent rencontrer une idéologie politique violente. Et ce que cela peut produire, c'est une des clés d'explication du nazisme, je pense. Et dans le cas de Magda Goebbels, ça conduit à ce crime atroce, en plus, qui est le meurtre de ses enfants. Et ça explique, un certain nombre de phénomènes de violence.
Six enfants que toute l'Allemagne connaissait, puisqu'ils étaient filmés en permanence, dans des moments de bonheur, sans doute des faux moments de bonheur, en tout cas. Tout cela a été
ou des vrais moments de bonheur,
ou des vrais, mais tout cela a été excessivement mis en scène par ce qui faisait partie de la propagande hein, et l'entourage de Goebbels. On rappelle le titre ?
Magda Goebbels, la première dame du Troisième Reich.
Merci, plein de succès, bonne suite à vous.
Merci.
On va continuer à votre grand atelier, Toby Nathan, en musique, si vous voulez bien, parce qu'on va profiter de la présence de nos musiciens maliens qui sont là, animés par Abou Diarra. Un deuxième extrait, une deuxième chanson extraite de son cinquième et dernier disque, Koya. Merci d'être passé par les studios de France Inter pour le grand atelier. Je précise que la chanson s'intitulait Abou Nicolas et puis je vais donner les noms des musiciens qui vous accompagnaient. Abou Diarra, il y avait Moussa Koïta au clavier et Joël Caboret à la calebasse. Merci beaucoup.
Ah, mais j'adore cette musique.
Vous adorez cette musique. C'est vrai que je vous voyais très attentif. Merci Toby Nathan d'être venu dans le Grand Atelier sur France Inter. J'ai l'impression qu'on connaît mieux votre profession, ethnopsychiatre, qu'on vous connaît mieux, vous aussi, à travers vos amis, vos goûts, votre passion des autres. Je précise que Les âmes errantes, c'est le titre de votre dernier livre consacré aux jeunes attirés par la radicalisation, qui se lit, on l'a dit avec l'un de vos invités, comme un roman. Il paraît à l'iconoclaste. On lit aussi vos chroniques dans Philosophie Magazine. Et puis, on peut lire aussi certains de vos essais dans la collection Les empêcheurs de penser en rond. Bonne suite à vous.
Merci, merci Vincent Jeuss.